Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et alors qu'une partie de l'Amazonie brûle, l'île de Madagascar connaît aussi d'importants incendies liés à l'agriculture, une pratique habituelle dans le pays qui reste toutefois dévastatrice pour l'environnement. Dans un instant, nous irons sur place. Un négociateur britannique arrive aujourd'hui à Bruxelles dans l'espoir d'obtenir des concessions pour que son pays sorte de l'Union avec un accord. David Frost est un habitué de la politique européenne, son portrait à suivre. Et puis dans ce journal, vous comprendrez pourquoi les habitants de Langouette au nord de Rennes se mobilisent autour de leur maire. Hier, la justice l'a empêché d'interdire les pesticides sur sa commune. Et nous commençons donc ce journal en rejoignant Madagascar qui brûle autant ou plus que l'Amazonie en ce moment. Des incendies habituels provoqués par les agriculteurs pour utiliser les terres. Comme chaque année, ce pays, l'un des plus pauvres du monde, brûle donc. Et si les causes des incendies sont différentes de celles en Amazonie, les conséquences n'en restent pas moins catastrophiques dans ce sanctuaire pour une faune et une flore endémiques. C'est un reportage à Antananarivo de Sarah Teto.
Il y a 15 jours, Olivier Adirisson s'est rendu en voiture dans l'ouest du pays. 18 heures de trajet aller-retour traumatisante qu'elle a tenu à partager sur les réseaux sociaux.
J'ai été choquée. C'est impressionnant, toutes ces flammes. Ça allait jusque vers la route. Et ma première réaction, c'était de poster ces photos sur Facebook pour partager mon indignation. Indignation qui n'est pas toujours partagée. Certaines personnes trouvent ça encore normal ou banal ou justifie ces feux de brousse par les pratiques culturelles.
Et les raisons de ces pratiques sont essentiellement liées aux techniques agricoles encore très artisanales. Défrichement, culture sur brûlis, nettoyage saisonnier, charbonnage ou encore aide à la repousse de l'herbe dans les pâturages. Nzantou Razak Manarin, le président de l'Alliance Wargas, une organisation pour la préservation de l'environnement, regrette le manque de poigne des autorités pour endiguer un phénomène qui a empiré ces trois dernières années.
Si vous regardez sur la satellite Maudis, Madagascar brûle tous les jours dans cette saison. C'est la tragédie des biens communs. On se rejette les responsabilités parce qu'on ne sait pas si c'est la responsabilité du secteur forestier ou du secteur élevage ou de l'agriculture. Donc c'est cette solidarité gouvernementale aussi qui manque beaucoup et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de plan de lutte sérieuse contre les feux à Madagascar alors que c'est le plus grand fléau de l'appauvrissement du pays.
À Madagascar, les auteurs de feux de brousse encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, mais dans les faits, la pratique reste tolérée. Ainsi, l'île rouge n'a jamais, hélas, aussi bien porté son nom.
Sarah Teto à Antananarivo pour France Culture. Des feux qui ravagent donc aussi l'Amazonie en nombre depuis le début du mois d'août. Hier soir, le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière venue de l'étranger pour lutter contre ces incendies. Le pays conditionne toutefois cette aide à la possibilité pour le gouvernement brésilien de contrôler ses fonds. Au moins 60 personnes sont mortes hier en Syrie dans la région d'Idlib où les combats perdurent entre l'opposition rebelle et le régime de Bachar el-Assad. Le régime a pu appuyé par l'aviation russe qui y a lancé une vaste offensive terrestre le 8 août dernier. Elle continue donc. Et c'est dans ce contexte qu'une délégation d'élus français du Rassemblement national est arrivée hier en Syrie. Une délégation emmenée par le député européen Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rallié depuis au RN. Il plaide en faveur d'une reprise des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Il le disait hier soir à Stanislas Vazak.
La politique syrienne de la France, c'est une catastrophe depuis François Hollande. Voilà, c'est tout. La politique étrangère, ça consiste à regarder la réalité et par moments à discuter avec des gens qu'on n'aime pas forcément. La réalité aujourd'hui en Syrie, c'est d'abord une guerre civile horrible qui dure déjà depuis 8 ans. Une guerre civile où la population, les militaires ont été en première ligne et personne ne sait les vrais chiffres, mais on peut dire clairement qu'il y a à peu près 300 000 morts. Une guerre civile où la France, par moment, a armé les terroristes. Et donc aujourd'hui, cette guerre civile est en train d'être gagnée par le gouvernement légal de Syrie. Et il faudra bien discuter avec eux. Voilà, quand on me dit ce gouvernement est un régime qui ne respecte pas les valeurs démocratiques, vous avez raison. Mais est-ce qu'on ne discute pas avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on ne discute pas avec le Qatar? Et aujourd'hui, si le combat contre Al-Qaïda et Daesh a été gagné, c'est bien sûr parce qu'il y a eu les forces kurdes, les forces alliées qui ont combattu au nord, mais c'est aussi parce que l'armée syrienne a été en première ligne et a gagné ce combat. Si le régime, si le gouvernement syrien s'était effondré, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? On aurait un califat à Damas.
Le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani. Il faut repenser notre lien avec la Russie, car pousser la Russie loin de l'Europe est une profonde erreur. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France hier. Il se redit ainsi favorable à une normalisation des relations avec Moscou. Le négociateur du Royaume-Uni sur le Brexit arrive à Bruxelles aujourd'hui. Il est missionné par le chef du gouvernement, Boris Johnson, qui, rappelons-le, souhaite quitter l'Union le 31 octobre prochain, avec ou sans accord. L'émissaire britannique doit tenter aujourd'hui d'arracher des concessions, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Son point fort pour cela pourrait être sa fine connaissance de la politique européenne, Antoine Gignot.
C'est un homme de l'ombre, un habitué des coulisses. David Frost a passé au total plus de 20 ans au ministère des Affaires étrangères britannique, conseiller, diplomate, ambassadeur au Danemark dans les années 2000. Il maîtrise tous les rouages de l'Union européenne, mais reste un eurosceptique convaincu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boris Johnson lui fait confiance. Il l'a rencontré lorsqu'il était ministre, il a travaillé avec lui jusqu'en 2018 et il partage, comme lui, la conviction que les Britanniques doivent s'éloigner de Bruxelles. Dans un article publié en 2015, il explique d'ailleurs clairement quelles sont pour lui les meilleures méthodes de négociation avec les 27. Il faut d'abord nouer des alliances avec d'autres pays pour avoir des appuis, dit-il. Il faut surtout ensuite faire croire à l'adversaire que ce que l'on réclame est parfaitement normal. Mais même s'il a de l'expérience et des réseaux, David Frost manque de temps. Il n'a qu'un peu plus de 2 mois pour proposer des solutions nouvelles au problème de la frontière irlandaise et pour briser l'unité qu'affichent depuis 3 ans les responsables européens.
L'Europe encore est un suspense entretenu par l'Élysée. Le nom du candidat français à la Commission européenne n'a finalement pas été dévoilé hier. Paris aimerait obtenir un dossier reflétant l'une de ses priorités politiques comme le commerce ou le climat. C'est ce que l'on déclarait à la présidence le mois dernier. Les soutiens au maire de Langouette en Ille-et-Vilaine se mobilisent après la décision du tribunal administratif de Rennes. Ils étaient hier devant la préfecture de région, n'acceptant pas la suspension de l'arrêté pris par le maire de la commune. Ils voulaient interdire l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. La justice lui refuse, mais il ne s'arrêtera pas là, Suzanne Chaudahy.
Le maire Daniel Cueff va faire appel parce que selon lui, ça tourne en rond.
Madame la ministre de l'écologie dit le conseil des ministres donne raison à monsieur le maire de Langouette. Et d'un autre côté, ce même gouvernement qui saisit le tribunal administratif pour suspendre un arrêté que madame la ministre juge comme un arrêté nécessaire à prendre à l'avenir.
Là, il y a une pancarte devant une maison. Pas de glyphosate sur le champ de patates.
Je m'appelle Eliane Mizana et je l'encourage vivement et je trouve justement qu'il a du cran d'affronter aussi toutes les difficultés.
Quelques mètres plus loin, Hélène Heuré habite une maison depuis 2010.
Voilà, on a envie de se sentir en sécurité. Quand quelqu'un épand et que les enfants jouent, on n'est pas rassuré.
Pourtant, les agriculteurs assurent qu'ils respectent les règles. Interdiction de traiter quand il y a du vent, utiliser des outils anti-dérive pour que les produits ne se propagent pas. Benjamin Blair va même plus loin, cet exploitant a des prairies à Langouette.
Non, c'est très bien de parler des pesticides, mais on sait que les gaz d'échappement provoquent également des cancers. Je lance un appel à Monsieur Cueff, interdire tout véhicule thermique à moins de 150 mètres de toute maison d'habitation.
Et selon l'agriculteur, les consommateurs n'achètent pas assez de produits bio pour que le modèle soit viable.
Suzanne Chaudjahi de France Bleu Armorique pour France Culture. La régularisation des comptes cachés à l'étranger a permis à Bercy de récolter près de 9,5 milliards d'euros en 4 ans. Ces impôts et ces amendes avaient été mis en place après l'affaire Cahuzac pour régulariser les avoirs à l'étranger. Plus de 9 milliards de gains donc pour l'État français. Le chiffre apparaît dans un rapport qui a été remis hier aux parlementaires. C'est sans aucun doute une première mondiale. Des cybergendarmes du Centre français de lutte contre la criminalité numérique à Pontoise ont réussi à neutraliser un réseau informatique pirate appelé un botnet. Ce réseau permettait de prendre la main à distance sur près de 850 000 ordinateurs à travers le monde. En bref encore, ces accusations de l'hebdomadaire L'Express qui affirme que l'écrivain Yann Moix a publié des textes négationnistes lorsqu'il était étudiant. Et Yann Moix l'admet et il ajoute « L'âge de 20 ans, c'est fait pour se tromper. L'homme que je suis aujourd'hui en a honte ». La météo à présent de ce mercredi qui débute avec un ciel orageux dans le nord, légèrement pluvieux dans la matinée sur le nord de la Bretagne et sur la Normandie avant que le soleil ne s'y fasse une place. Donc après les pluies de ce matin, partout ailleurs les éclaircies seront belles jusqu'à ce que les orages n'arrivent sur la partie est de la France. Ce matin comptait 19 degrés à Brest, 23 à La Rochelle, 24 degrés à Lille, 25 à Paris, Besançon et Lyon, 27 degrés à Marseille et sur la Corse.